interview.
Du coup, faut pas que Tommy l'enregistre.
Ouais, merci de me le rappeler. Là, on enregistre un petit peu pour faire un test de l'enregistreur. Oui.
Ok, le beurre.
Ouais, ça. Bonjour, auditeurs, auditrices. Tu écoutes Radio Diwa. rdwa.fr sur internet et
à l'écoute de RDIWA sur le 107.5 FM sur internet www.rdwa.fr. Je suis avec
Sabine. Bonjour Sabine.
Bonjour Aline.
Nous recevons FG. Salut.
Bonjour.
Qui pratique l'anthropologie globale et qui vient nous en parler. Mais peut-être avant de dire plus précisément de quoi il s'agit, l'anthropologie globale, tu peux nous décrire comment tu en es arrivé là ?
Oui, alors quand j'étais à la fac, j'ai eu beaucoup de temps libre et l'occasion de rencontrer beaucoup de gens divers et variés. Et j'en ai profité pour explorer un petit peu tous les champs, on va dire, de notre société, qui, voilà, dont je n'avais pas l'habitude auparavant. Donc on va dire que je passais mon temps à courir les conférences, les activités qui étaient proposées, les engagements associatifs, etc., etc. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça pendant plusieurs années. Et assez rapidement, j'ai eu besoin de comprendre un petit peu les maux de notre société, mais par leur cause. Donc de remonter aux causes de nos problèmes, et pas simplement d'essayer de les traiter, mais voilà, de remonter un petit peu plus loin. Et je dois dire que j'étais un petit peu déçu dans les milieux que je fréquentais à l'époque, parce qu'à chaque fois que je posais cette question-là, eh bien, je me retrouvais avec des réponses assez lapidaires ou superficielles, enfin, que je trouvais comme telles. Par exemple, on me disait, eh bien, ça vient du capitalisme, ça vient, je sais pas, de l'industrialisation, ça peut venir du manque de démocratie, etc. On va dire que chacun avait plus ou moins sa réponse personnelle, mais j'étais pas tout à fait satisfait par ces réponses-là. J'avais besoin d'un peu plus de profondeur. En effet, le capitalisme ne tombe pas du ciel, ni l'industrialisation de l'Europe. Donc j'avais besoin un peu de remonter aux racines de ces choses-là. Et donc j'ai entrepris peu à peu de faire des recherches dans ce que j'appelle anthropologie globale, donc sous cette approche-là, c'est-à-dire de remonter aussi bien loin dans le temps, mais également avec une perspective large qui s'étend, on va dire, à l'ensemble de la planète. Voilà.
Est-ce qu'en ce moment, plusieurs chercheurs et chercheuses pratiquent l'anthropologie globale ?
Alors, on est très peu pour l'instant, et j'espère qu'on sera de plus en plus. En France, on va dire que c'est un domaine qui est quasiment inexploré pour l'instant. Donc, il y a quelques chercheurs, surtout dans le monde anglo-saxon, et c'est avec eux que je suis principalement en contact, et donc je me nourris le plus de leurs lectures. Voilà, donc pour l'instant, c'est très minoritaire, et ça s'explique assez bien de par le fonctionnement même du système universitaire qui produit des cloisonnements plus qu'une vue globale, et donc qui est spécialiste de la spécialité, on va dire.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette spécialité de l'anthropologie globale ? Est-ce qu'on peut appeler ça une spécialité ?
Je ne sais pas si on peut appeler ça une spécialité. En tout cas, pour moi, c'est une approche qui est essentielle et qui vise à synthétiser beaucoup les travaux des autres chercheurs, donc de faire le lien entre les différentes disciplines et différentes sciences. Par exemple, moi je m'intéresse autant aux sciences naturelles qu'aux sciences humaines, parce que en cherchant, eh bien, je me suis rapidement aperçu que le milieu, l'environnement, influence énormément la manière dont habitent les sociétés et dont s'organisent les sociétés dans ce milieu-là. Donc, voilà, c'est vraiment une discipline qui vise à rassembler, à réunir eh bien, les différents champs de connaissances.
Donc l'anthropologie globale, donc toi tu travailles dessus, et au niveau de ce que tu as compris, du coup, sur d'où viennent nos maux de société, du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce qu'on aimerait bien tous savoir, je crois que c'est une question que beaucoup de gens se posent.
Oui, parce que tu es parti de là en étant un peu déconvenu du monde tel qu'il nous apparaît maintenant pour essayer de... D'où cette question sur les mots, parce que peut-être qu'aussi ça pourrait s'appliquer pour les belles choses qu'on vit actuellement, puisqu'on est aussi plein de richesses dans le bon sens du terme, mais dans l'ordre que tu veux.
D'accord. Oui, en effet, je me suis principalement concentré sur les mots parce que la situation actuelle n'est pas réjouissante, et j'étais un petit peu déçu des réponses politiques que j'entendais à droite à gauche. Qui me semblait complètement détaché d'une compréhension solide de notre évolution en tant qu'espèce. Pour moi, si on veut apporter des réponses intéressantes et pertinentes, il faut au préalable se préoccuper des causes. C'est un petit peu la même approche que je préconiserais en médecine, c'est-à-dire si on se focalise sur les symptômes, eh bien on risque de ne rien comprendre ou simplement de déplacer le problème ou de le retarder un petit peu. Donc voilà, je sais qu'en Occident on a cette approche très symptomatique des choses, donc de voir ce qui ne va pas et d'essayer d'appliquer le plus vite possible un pansement dessus. Pour moi, j'essaie de prendre la chose de manière opposée, c'est-à-dire d'essayer de remonter au problème. Donc pour répondre à ta question, arriver presque à une conclusion de savoir d'où viennent nos problèmes actuels, je dirais en une phrase que les problèmes qu'on rencontre viennent de notre volonté de contrôle. Et ça, on peut dire que c'est une phrase qui résume l'ensemble de ma pensée. Mais bon, pour arriver à cette phrase-là, ça nécessite pas mal d'explications.
Mais alors peut-être on peut revenir à ce qui constitue l'anthropologie globale, dans le sens où toi tu t'intéresses aux mécanismes qui sont agissants dans nos sociétés et dans les sociétés du passé, et au moment de transition, et ça sur le long terme. Alors quand on a préparé cette interview, tu m'as rappelé que l'être humain existait en tant qu'espèce depuis 250 000 ans, c'est ça ?
L'Homo sapiens.
Et donc il y a une sorte d'histoire, même si c'est une grande partie de préhistoire, de cette espèce à laquelle tu t'es intéressé en tant qu'anthropologue global. Et une autre chose auquel tu t'intéresses, c'est sur cette longue, longue histoire, c'est les transitions.
Oui, tout à fait. Donc c'est sûr que la plus grande partie, c'est de la préhistoire, puisqu'on date l'histoire à partir de l'apparition de l'écriture il y a à peu près 5000 ans. Donc tout ce qui est avant, on parle de préhistoire. Donc en effet, les transitions et les grandes étapes qu'on a pu franchir m'intéressent. Donc c'est plutôt la paléoanthropologie et l'archéologie qui peuvent y répondre, plus que l'histoire. Et donc bien sûr, il y a des grandes étapes qu'on connaît, c'est-à-dire la bipédie qui va libérer les mains et donc permettre l'usage des outils, qui à force d'entrechoquer les pierres pour en faire des bifaces, on a pu découvrir par un éclat de silex le feu. Et donc aller explorer de nouvelles régions du monde, puisque le feu permet d'avancer dans l'obscurité, donc d'amener la lumière là où elle ne se trouve pas, mais également la chaleur, donc d'explorer des régions beaucoup plus froides. Le feu permet également un changement progressif au niveau alimentaire, tout comme le permet l'outil, puisque la chasse ne peut s'établir qu'à partir du moment où il y a l'outil. Donc on voit bien que tout ça s'enchaîne et est lié. Et puis progressivement on en vient à cette grande période de basculement qui est le néolithique, donc le passage d'une vie chasseuse et cueilleuse à une vie productrice de son alimentation.
Alors, tu peux nous rappeler des grands repères chronologiques dans ces événements que tu as dit, la taille du silex et la maîtrise du feu?
Alors les premiers outils, c'est plus de 2 millions d'années, hein, c'est pas Homo sapiens qui les a mis en place, mais pour ce qui est du feu, c'est on va dire 500 000 ans à peu près, donc c'est Homo erectus qui serait le premier à avoir maîtrisé le feu, et puis pour ce qui est du passage à l'agriculture, c'est à peu près il y a 10 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, et c'est là où les sciences naturelles peuvent nous apporter un éclairage très intéressant, puisque l'agriculture s'est mise en place suite à tout un tas de cofacteurs qui l'ont permis. Alors je peux m'attarder un petit peu là-dessus. En fait, il y a eu un réchauffement du climat planétaire, donc c'est la dernière période glaciaire, et suite à ce réchauffement, les glaces ont fondu au pôle, ça a libéré de grandes quantités d'eau, donc on a une pluviométrie qui s'est accrue, et dans certaines régions, cette pluie abondante a favorisé grandement les espèces végétales et animales qui s'en nourrissaient, évidemment. Et les humains qui s'y trouvaient ont découvert des céréales comestibles à ces endroits-là, à certains endroits. Il faut savoir que tout ça s'est mis en place à plusieurs endroits de manière simultanée, plus ou moins dans le temps, sans connexion entre eux. Donc il n'y a pas un seul et unique foyer de domestication des plantes, mais ça s'est produit à plusieurs endroits à peu près à cette période-là. Et dans les zones où il y avait peu de maladies, donc par maladie, il faut essentiellement entendre dans ce cas-là peu de moustiques, puisque c'était les premiers principaux vecteurs de maladies. Donc dans les endroits où il y avait peu de moustiques, les humains ont pu voir leur démographie augmenter suite à la consommation des céréales sauvages qu'ils rencontraient, puisque la céréale est un produit alimentaire qui a pour particularité d'avoir des forts rendements. Donc on sait en biologie que plus une ressource alimentaire est présente, plus l'espèce qui la consomme va avoir tendance à proliférer. Et dans ces lieux où les humains étaient peu sujets aux maladies, donc voyaient leur démographie augmenter, mais également dans les lieux où il y avait une sorte de stress climatique, c'est-à-dire qu'on avait des périodes d'abondance, et puis d'un seul coup, le climat faisait qu'il n'y avait plus grand-chose à se mettre sous la dent, et bien ces grandes populations ont subi une sorte de pression climatique et ont dû innover pour survivre, et progressivement ont développé l'agriculture. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs facteurs qui, combinés entre eux, vont pousser les humains vers l'agriculture. Et tout ça s'est fait de manière lente et progressive, puisqu'on estime qu'il a fallu 3000 ans environ entre la consommation des céréales à l'état sauvage pour passer à leur version domestique.
Et pour toi, du coup, l'agriculture, c'est une des phases majeures qui a transformé nos sociétés?
Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai élaboré une petite méthode en fait pour étudier les sociétés et essayer de les comprendre, qui est basée sur 6 variables. Donc il y a 2 variables principales dans cette méthode-là. La première, c'est la démographie. La démographie est absolument fondamentale parce que on s'organise pas de la même manière à 20 personnes qu'à 20 000. Donc première variable, la démographie. Ensuite, la deuxième variable qui est centrale, c'est la technique, puisque la démographie va permettre ou non la réalisation de certaines techniques. Et ensuite, gravitent autour de ces 2 variables centrales, 4 variables périphériques qui sont le culturel, le politique, l'économique et le culturel. Et donc, en modifiant now you're playing these games to keep my heartbeat spinning, yeah. Show me love you, show me love you, show me everything my heart is capable of. You reshape me like butterfly origami, yeah. You have broken into my heart. This time I feel the blues have departed. Nothing can keep me away from this feeling. I know I am simply falling for you. Et donc, en modifiant, on va dire, la variable démographique à la base, par exemple, en ayant un surcroît de ressources alimentaires, comme j'ai pu le décrire, cela va directement influencer la variable technique, qui va rétro-interagir avec la variable démographique, les deux étant fortement liés, et les 4 variables périphériques qui les entourent, qui sont le politique, le culturel, l'économique et le sacré, vont accompagner ce mouvement. Donc c'est une petite méthode, un petit outil que j'ai développé et que j'aime bien pour essayer de comprendre les sociétés. Et donc on voit que les conséquences climatiques, botaniques et géographiques qui vont permettre l'apparition des céréales comestibles et leur domestication, influent directement sur cette variable-là, qui est la démographie. Et donc, les 5 autres variables vont accompagner le mouvement. Donc, c'est pour ça que l'agriculture est absolument fondamentale dans l'organisation des sociétés à partir du néolithique. Et tout va basculer. Par exemple, on passe du nomadisme au sédentarisme, puisque pour s'occuper de champs agricoles, il faut une présence. Il faut s'en occuper, vérifier qu'il ne se fasse pas dévaster par d'autres animaux ou d'autres groupes humains. Donc il faut également les protéger. Et peu à peu, on arrive à la propriété privée en disant « voilà, j'ai passé un temps assez considérable à m'occuper de cette parcelle de terre, donc elle m'appartient, je me l'approprie ». Et je vais défendre cette propriété. Donc on voit l'apparition de la barrière, par exemple, qui va encercler les champs. Le mot ferme à ce sujet est très intéressant, puisque la ferme, ça veut dire un espace fermé. Donc on voit bien que même l'étymologie peut nous indiquer certaines choses sur ce sujet.
was capable of. And now I can't break away from this fire that we started.
Pathologies physiques ou mentales qui apparaissent au cours de ces changements. Est-ce que ça commence très tôt? Est-ce qu'on se rend compte que en préhistoire que suite ou en très ancienne préhistoire, suite à l'invention de l'outil ou suite à la maîtrise du feu, il y a des choses particulières qui se passent et puis ensuite au cours de cette et après cette transition majeure qui est l'invention de l'agriculture?
Alors oui, c'est une très bonne question et puis je pense que c'est judicieux de la poser maintenant. En effet, il y a certaines pathologies et je dirais plutôt à la période du néolithique qui vont apparaître. En fait, il faut savoir que la céréale, c'est un aliment qui apparaît très 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 tardivement dans notre régime alimentaire. On va dire que l'immense majorité du temps, on était cueilleurs-chasseurs et on se nourrissait de fruits, légumes, plantes, feuilles, etc. et d'animaux, de produits carnés. Mais la céréale apparaît très tardivement du simple fait qu'elle nécessite une transformation chimique pour être consommée. On ne peut pas consommer les grains des céréales de manière brute et crue. Si on mange du riz cru, on risque plus de se casser les dents qu'autre chose. Donc ça nécessite de procéder à une transformation chimique.
Même s'il s'agit d'une simple germination, parce qu'on peut manger des céréales germées.
Oui, bien sûr, mais c'était pas la pratique la plus développée à l'époque. On a commencé à manger les céréales en les broyant et en les mélangeant avec de l'eau et puis en les cuisant. Donc on voit bien qu'il y a ces étapes un petit peu nécessaires tout simplement pour faire des galettes. Et donc ça demande déjà une petite technicité d'altération chimique. Et donc on va élargir notre régime alimentaire comme ça. Les céréales à la base sont destinées plutôt aux animaux granivores, hein, comme les oiseaux qui sont munis d'un gésier qui permet le broyage interne des céréales, etc. Donc le fait de mettre cette alimentation qui n'est pas physiologiquement adapté pour nous dans notre organisme, va avoir des conséquences directes et qu'on observe grâce à l'archéologie. Donc il y a plusieurs conséquences, notamment on s'aperçoit que les premiers mangeurs de céréales vont voir leur taille physique diminuer d'environ 10 à 15 cm. Les chasseurs-cueilleurs du paléolithique mesuraient à peu près 1m80, 1m85 pour les hommes, et les femmes également étaient assez grandes. Et là, on voit assez brutalement une diminution de la taille chez les premiers mangeurs de céréales. Ce qui est caractéristique, en fait, d'une sous-alimentation, d'une moindre nutrition. Et on sait également que les aliments sauvages sont beaucoup plus riches sur le plan nutritif que les aliments domestiques. Pour tout un tas de raisons, c'est peut-être pas nécessaire de s'apesantir là-dessus. Mais voilà, on a cette diminution de la taille. On voit également le rachitisme apparaître. Alors là, c'est plus le phytate qui est en cause. Le phytate, c'est un élément présent dans le son des céréales qui a tendance à s'agglomérer avec les nutriments et à créer de macromolécules qui sont difficilement assimilables par l'organisme, donc qui produit un phénomène de carence. Et un autre point essentiel qu'on observe, encore une fois, grâce à l'archéologie, c'est l'apparition des caries dentaires et des problèmes liés aux dents. Voilà. On retrouve extrêmement peu de problèmes de cet ordre-là chez les chasseurs-cueilleurs du paléolithique. Alors, il y a également une diminution de la masse osseuse et de la masse musculaire qui est constatée. Il y a des études récentes qui ont montré tout ça. Et on estime à peu près qu'on a perdu 20% de masse osseuse et de masse musculaire par rapport entre les deux époques. Voilà. Alors là, c'est plutôt le plan, on va dire, individuel. Ça impacte la morphologie et le corps de l'individu. Mais il y a également des répercussions sociétales. Par exemple, la sédentarité qui découle de l'agriculture va rapidement produire des villages et puis des villes. Et des villes assez importantes, assez peuplées. Notamment parce que la propriété privée chez les sédentaires invite à cette fixation, à cet ancrage dans le sol. Et donc il y a accroissement démographique au même endroit. Donc on voit les villes émerger. Et les villes, en fait, sont générateurs de pathologies, comme par exemple la peste, le choléra, etc. Et ça, c'est également dû à la promiscuité des animaux, puisque la domestication des plantes est également accompagnée de celle des animaux. Et la présence d'animaux domestiques dans ces ensembles urbains va faciliter la transmission des agents pathogènes des animaux aux humains. Et par exemple, la peste, c'est un cas d'école, puisque c'est les tiques des rats qui transmettent la peste, et les rats sont attirés par les grains des récoltes agricoles et prolifèrent rapidement dans les villes. Et donc la cohabitation des humains et des rats va faciliter les grandes épidémies de peste. Et donc tout ça, ce sont des pathologies récentes qui n'existaient pas au paléolithique.
A few more sunshine shall pass o'er these dark hills of time, and we shall be where suns are no longer far, serener climb. A few more struggles here, a few more partings o'er, a few more toils, a few more tears, then we shall weep no more. And oh, my Lord, prepare my soul for that bright day.
Pas nous qui sommes coincés avec eux. Ce sont eux qui sont coincés avec nous. Mais on va pas rester.
A few more storms shall be upon this wild rocky shore, and we shall be where tempests cease and surges swell no more. And oh, my Lord, prepare my soul for that calm day.
Alors, tu as cité, ça fait la deuxième fois que tu cites la propriété privée. Est-ce qu'on peut parler de pathologie sociale à propos de la propriété privée, ou est-ce qu'on peut se dire que, comme, enfin, avec ses corollaires de névrose qu'elle peut traîner avec elle, on peut parler de ça. Et il y a aussi un point alors je sais pas si il est lié, mais c'est l'effondrement des civilisations. Et voilà, est-ce qu'il y a des liens entre ces évolutions, ces changements et ces effondrements de civilisations que tu as aussi étudié?
Alors, je préfère prendre séparément les deux questions. Donc, je vais d'abord m'attarder sur la première, qui est la question de la propriété. Donc, on peut observer déjà que chez les peuples nomades, on peut difficilement accumuler les objets, puisque le nomadisme invite au dépouillement et à la légèreté. Hein. C'est très difficile de parcourir des kilomètres avec une bibliothèque sur le dos ou un sofa ou je ne sais quoi. Par contre, quand on est sédentaire, pas de problème pour accumuler les objets. Donc, la manière de vivre invite dans une direction ou dans une autre. Premier point. Ensuite, la propriété, pour moi, témoigne d'une forme de peur vis-à-vis du futur. Le nomade va se déplacer au rythme des saisons, donc récolter dans son environnement son alimentation. Et puis si l'hiver approche et que l'alimentation se fait rare, eh bien il va avoir tendance à se déplacer dans des régions où elle est plus abondante. Et à l'inverse, le sédentaire agriculteur, lui, ne peut pas ou difficilement se déplacer. Donc il va être obligé d'affronter frontalement ces saisons froides et improductives en faisant des réserves. Et le concept de réserve est étroitement lié à celui de la propriété. Et du coup, on voit bien que ce refus de bouger avec les saisons, avec le mouvement, d'être en mouvement avec les éléments qui nous entourent, etc., invite là également à la propriété. Et sous une forme de peur, c'est-à-dire... parce que j'ai peur de manquer demain, j'accumule aujourd'hui et je fais des réserves aujourd'hui. Et je dis que ces réserves m'appartiennent parce que j'ai pas trop envie de les partager et parce que ça garantit ma survie. Voilà, donc il faut voir un petit peu ces interactions-là.
Et l'effondrement de certaines civilisations. Tout d'abord, on observe des effondrements de civilisations. Alors, je ne sais pas si j'emploie les bons mots.
Oui.
Avant l'apparition de l'agriculture, est-ce qu'on...
Alors, je pense qu'avant de se pencher sur cette question, il faut définir le terme civilisation. Mmh. En fait, civilisation vient du latin civis, qui veut dire la ville, et décrit une société complexe. Voilà, essentiellement urbaine, où on va retrouver par exemple la production alimentaire, la propriété privée, la hiérarchisation du pouvoir, la division des tâches, la présence de la guerre, donc une économie marchande, etc., etc. Donc, civilisation n'est pas un terme à employer pour toutes les sociétés. Je sais que c'est un travers qui est assez récurrent dans les médias, mais il faut se défaire de ce travers-là en revenant à l'étymologie même du mot « civis », qui veut dire la ville, la cité. Donc, les civilisations apparaissent avec l'agriculture et seulement après le passage au néolithique. Donc, on ne peut pas parler de civilisation avant cette période-là. On peut parler de société, on peut parler de société paléolithique, on peut parler de société primitive, on peut même parler de société intermédiaire qui serait des sociétés comprises entre les sociétés primitives et les sociétés civilisées complexes, Alors, société intermédiaire, il y a les tribus, il y a les chefferies, qui sont différents types de sociétés, et qui sont à chaque fois en corrélation avec un type de démographie. On s'aperçoit par exemple que la société primitive dépasse rarement les 100 personnes. Elle est comprise entre 15 et 100 personnes en règle générale. Et ça, pour des raisons biologiques, physiques, tout à fait compréhensibles. Alors pour moi, il y a deux raisons fondamentales qui expliquent pourquoi on ne voit pas de société primitive dépasser les 100, 150 personnes. Eh bien, c'est parce que chaque individu a besoin de se représenter de sa propre voix, en son propre nom, au sein de la communauté. Donc si on est dans un cercle de parole qui est trop nombreux, cela n'est plus possible pour des raisons simplement physiques, hein, problème d'audition, de porter la voix suffisamment, etc. Et le deuxième point, c'est de se connaître mutuellement par ses singularités. Donc connaître le prénom de chacun, connaître les caractéristiques de chaque membre, etc., etc. Et là encore, si on est trop nombreux, ce n'est plus possible et on tombe dans l'anonymat. Et en fait, les sociétés primitives ont opté pour ce mode d'organisation qu'on comprend facilement en utilisant ces deux critères-là. Mais c'est un mode d'organisation qui est très sain également, puisque étant nomades, elles ne peuvent pas se déplacer à 2000, 3000 personnes. Ce n'est pas pensable. Elles épuiseraient de suite le milieu dans lequel elles se trouvent. Donc elles ont besoin de rester à petite démographie. Et donc, si une société primitive venait à grossir et à dépasser un peu ce seuil critique, eh bien, elle se scinde en deux et préfère former deux unités autonomes pour rester dans ces seuils vitaux. Donc, voilà, un petit éclaircissement sur les différents types de sociétés et sur le terme civilisation. Ensuite, pour revenir à la question de l'effondrement des civilisations, alors ce qu'on constate, on dénombre à peu près 25 civilisations depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui. Alors bon, chaque chercheur va un peu pinailler sur ces chiffres-là, mais je pense que 25 c'est un bon ordre de grandeur. Et ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des cas, moi je dirais à peu près 80% des cas, ces civilisations-là se sont effondrées pour des raisons écologiques. Donc de surpression sur les écosystèmes. Alors, pour donner des exemples, eh bien, il y a la civilisation de Sumer qui est estimée comme étant la première civilisation connue à s'être développée. Sumer se serait effondrée suite à une trop grosse irrigation de ses champs, une irrigation intensive, et ça aurait fait une remontée saline, une stérilisation saline des sols. Voilà, il y a également la civilisation d'Angkor qui était basée également sur l'irrigation, donc au Cambodge. Et là, son système d'irrigation se serait ensablé et ça aurait mis fin à la civilisation d'Angkor. Il y a la civilisation Maya qui, elle, aurait trop pompé sur ses nappes phréatiques et aurait subi quelques années de sécheresse dans la foulée, ce qui aurait mis à plat la civilisation. Il faut savoir que les Mayas, on estime 95% de pertures humaines dans les années qui ont suivi l'effondrement de leur civilisation. Donc les conséquences sont souvent dramatiques.
Avant l'arrivée des Européens.
Oui, les Mayas, c'est l'an 950, donc les Européens n'arrivent qu'à la fin du 15e siècle. Il y a la civilisation des Anasazi qui se trouve dans l'actuelle Amérique du Nord, qui elle s'est également effondrée suite à une trop grosse déforestation de son milieu. On peut également dire que la Grèce antique et la Rome antique ont largement contribué à leur effondrement en sapant leur base écologique. Notamment en termes de déforestation. Donc voilà, si on essaie de remonter un petit peu aux causes des causes de l'effondrement de ces civilisations-là, très souvent on tombe sur des raisons écologiques. Et dans les cas restants, ce sont soit des invasions, soit des civilisations qui n'ont pas réussi à maintenir la cohésion de leur population et qui ont connu des déchirures internes.
Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Quand à force de n'y pas croire, notre monde explosera. Quand se fera la nuit noire, je veux être dans tes bras. Au diable ces lois trop grandes qui de nous disposeront. Moi simplement je demande que ce ne soit pas trop long. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Comme ça n'est pas mon affaire de mourir en sachant pourquoi. J'oublierai bientôt, j'espère, tout ce qui ne sera pas toi. Moi pourvu que je te tienne, avec toi les yeux fermés. Toi et moi, quoi qu'il advienne, que nous partions les premiers. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Qu'il n'y ait pas d'inventaire, qu'on ne puisse regretter ce qu'il nous restait à faire et puis à aimer. Qu'on ne pense pas aux branches, qu'on ne pense pas au vent, que ça ne soit pas dimanche, qu'on nous achève avant. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Qu'on ne fasse pas la somme des bonheurs que nous perdrons, qu'on ne sache jamais comme vieillir nous eût été bon. Pense à toutes ces années, pense à ces printemps perdus et la Méditerranée. Plus. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Pense aux moissons dans les granges, pense aux raisins de chez nous. Je sais bien que je mélange, quand on aime tout. Pense aux plongeons dans l'eau verte, au réveil de chaque jour. Quotidienne découverte, des yeux neufs de notre amour. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Alors plus jamais la neige, et plus jamais le soleil. Comment supporterais-je qu'on fasse un gâchis pareil? Non, puisqu'on sera ensemble, tu me tiendras fort, fort. Et juste avant que ça tremble, juste avant que nous serons morts. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Aujourd'hui tu dois me croire, c'est pour toi que je vivais. En attendant la nuit noire, ne me quitte plus jamais. Je ne veux plus penser même qu'il y avait un ciel bleu. Je souhaite à tous ceux qui s'aiment de mourir comme nous deux. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras.
Là, ce que tu décris comme mécanisme d'effondrement des civilisations, pour moi, concrètement, on est en plein dedans sur notre civilisation à nous. On est beaucoup, on vit principalement dans des villes et on met une pression sur notre milieu qui est immense. Et du coup, ça explique beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, dans ce que tu dis, on pourrait peut-être se servir justement de exemples avant pour ne pas faire la même chose. Et toi, du coup, tu parlais tout à l'heure de perspective un petit peu. Donc, tu travailles aussi sur les liens un petit peu entre passé et avenir. Enfin, entre qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit pas aussi catastrophique, par exemple, que la civilisation des Mayas ou... Ils ont perdu 80% des humains en peu de
95.
temps. 95. Ah, 95, pardon. J'ai... voilà. Donc, je sais pas un petit peu ce que...
D'accord. Oui, en fait, pour moi, l'anthropologie globale fait sens parce qu'elle permet justement ces compréhensions du passé. Et donc, à la lumière de ces compréhensions-là, on peut imaginer, repenser notre manière d'habiter la Terre aujourd'hui. Alors, tu parlais de la démographie. C'est bien d'insister là-dessus. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que pendant tout le paléolithique, la démographie humaine de notre espèce était plus ou moins stable aux alentours des 6 à 10 millions d'individus. Et elle était stable, équilibrée. Elle ne croissait pas comme c'est le cas aujourd'hui.
Et pourquoi elle ne croissait pas du coup ?
Elle ne croissait pas parce qu'on ne mangeait pas de céréales.
Parce que du coup, il n'y avait pas assez de ressources en nourriture ou parce qu'il y avait un... Enfin...
Alors...
Ou alors, est-ce qu'il y avait...
Est-ce que c'était est-ce, voulu
est-ce
ou
qu'il y avait
est-ce
une culture
juste...
aussi de la maîtrise de la démographie ?
Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, on ne mangeait pas de céréales. Deuxièmement, il y avait une plus grande mortalité infantile, qu'on estime à peu près 50%. Mortalité infantile qui se limitait au plus jeune âge, et une fois que ce cap était passé, les individus pouvaient vivre très longtemps, et sans recours à des médecines modernes, etc. Donc, En fait, c'est important de bien visualiser ça et cette petite démographie qu'on avait auparavant. En fait, l'humain, Homo sapiens, c'est un grand singe. Aujourd'hui, il y a 5 espèces de grands singes. On en fait partie. Et c'est un grand singe qui consomme beaucoup de ressources. On est un grand mammifère. On consomme beaucoup de ressources. Et c'est vrai que c'est gérable à 10 millions d'individus sans problème. Par contre, aujourd'hui, on est plus de 7 milliards. Sur la seule période du XXe siècle, on a pris 2 milliards d'humains en plus. Donc, c'est sûr que, qu'on s'est engagé depuis le néolithique dans une explosion exponentielle de notre démographie. Et ça crée une pression sur les écosystèmes incroyable. L'agriculture, il faut bien voir que c'est une succession d'étapes. La première étape, ça va être de déforester pour libérer de l'espace et avoir un espace vierge où on va introduire la variété qui nous intéresse. Ensuite, quand on cultive plusieurs années de suite cette variété sur ce sol préalablement défriché, le sol va avoir tendance à s'éroder et à s'appauvrir. Et puis, entre les deux, entre cette déforestation et cette érosion des sols, il y a une production démographique, puisque la céréale produit de très forts rendements. On peut dire que la céréale, c'est beaucoup de quantité et peu de qualité. En termes nutritifs, c'est très peu qualitatif. Et il y a également tout le faisceau de conséquences dont je parlais, comme la propriété privée, l'urbanisation, les pathologies, etc., etc. Donc on voit bien que l'agriculture, ce n'est pas quelque chose de neutre, ce n'est pas une pratique neutre comme une autre. Elle a des conséquences sur le milieu, sur les humains et sur les sociétés. Et sur les autres espèces, puisqu'on détruit leurs habitats en déforestant.
En mettant des fenêtres où des pigeons peuvent venir s'exploser.
On vient de se prendre un pigeon en pleine fenêtre du studio. Bon. Voilà, un petit clin d'œil des autres espèces qui nous rappellent leur présence, malgré nos efforts pour les éradiquer. Donc en fait, ça crée également un effet boule de neige, parce qu'une démographie galopante va appeler à de plus en plus de production céréalière et de production agricole. Et donc, à de plus en plus de déforestation, et ainsi de suite. Donc, progressivement, on en arrive à déforester, à défricher l'intégralité de notre planète et à évacuer le reste du vivant. Aujourd'hui, on estime que 98% des grands vertébrés terrestres sont composés des humains et de leurs animaux domestiques. 98%. C'est une hécatombe en termes de biodiversité. Donc voilà, et c'est l'agriculture qui est à l'origine de ça, on peut le dire.
Peut-être là tu parles au niveau terrestre, parce qu'il reste encore les 2/3 de la surface de la planète à cultiver. Pour les agronomes contemporains, on en est là, hein, savoir comment cultiver la mer, et que c'est une surface considérable, et du coup c'est encore un endroit dans lequel il y a encore quelques gros poissons et quelques gros mammifères, quelques gros animaux qui sont...
Oui, enfin, alors...
qui font en tout quand même sur Terre plus de 2% d'animaux qui ne sont pas les humains et leur bétail.
Je parlais des grands vertébrés terrestres. Tout à fait, mais la mer est en train de se vider à une vitesse incroyable. La mer n'est pas du tout épargnée. Mais bien sûr, les gens qui persévèrent dans cette logique-là verront toujours un petit espace à grignoter. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Je pense qu'on a réussi à passer du géocentrisme à l'héliocentrisme. Aujourd'hui, il faut également changer de paradigme, sortir de l'anthropocentrisme pour s'intéresser au reste du vivant vis-à-vis duquel on est complètement dépendant et interconnecté. Donc on ne peut pas se penser seul sur cette planète, entouré de nos quelques variétés et espèces domestiques. C'est impensable, c'est pas viable.
Et toi, est-ce que tu penses que pour maintenir du coup une démographie stable, enfin je reviens là-dessus, est-ce qu'il y a eu des volontés politiques à certains moments et pas que justement une voie de fait, en fait, bah voilà, on commence à cultiver, il y a de plus en plus, enfin voilà, il y a les céréales qui arrivent. Est-ce qu'à des moments pour toi, enfin je sais par exemple qu'à Sparte, hein, ils faisaient une sélection assez rude de leurs individus. Voilà.
Oui, ben il y a la Chine qui est très connue avec l'enfant unique, etc. Je ne sais pas si ce sont là de bonnes solutions. Pour moi, en fait, si on veut comprendre le problème démographique, il faut comprendre la céréale.
Et je parlais aussi de dans les sociétés primitives, en fait.
D'accord.
Parce que tu disais du coup que dans le néolithique, il y avait des populations stables de 6 à 10 millions.
Alors, dans les sociétés primitives, qui sont à peu de choses près sur le même fonctionnement que celles du paléolithique, hein, y a bien sûr des différences, mais elles sont très proches. En fait, il n'y avait pas besoin de se poser la question dans ces termes-là. Ça se faisait de manière spontanée. Donc, je l'ai dit avec une sélection naturelle, avec une grande mortalité infantile, mais également avec l'aménorrhée. Donc, on sait que l'âge normal du sevrage chez l'humain est entre 4 et 5 ans. Et donc, quand une mère allaite, elle a moins de chances de tomber enceinte. Donc, par exemple, bien simplement en pratiquant ça, ça limitait le nombre d'enfants. Et les premiers agriculteurs, en développant la céréale, etc., ont pu également réduire l'espacement entre les naissances en réduisant le temps d'allaitement. Donc voilà, il y avait plusieurs mécanismes comme ça qui se conjuguaient pour réguler la population sans qu'il y ait besoin de passer par des décisions politiques.
D'accord.
Se retrouver dans la rue, pas difficile. Honte de sa main tendue, pas difficile. C'est comme l'envers d'un jeu, une cascade, où on glisse peu à peu des gringolades. Il suffit d'un matin gris bien ordinaire, d'une lettre qui vous dit y a rien à faire. On ne peut plus vous garder, on ne peut plus vous loger, on ne peut plus vous aimer. Faudra vous débrouiller seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse, j'y pense. Dormir sur un coin de quai, pas difficile. Une inscription à la craie, pas difficile. Plus de maison, plus de chaud et plus de place. On ne donne pas de boulot à cette crasse. Plus de boulot, plus de sous et plus de piolles. C'est une histoire de fou, pas vraiment drôle. On ne peut pas vous laisser, car le métro va fermer. On ne peut rien vous donner pour que vous alliez vous saouler seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse, j'y pense. Se retrouver en prison, pas difficile. Votre mère avait raison, pas difficile. Prendre un peu ce qui est là, qui fait envie. Et qu'on ne vous donne pas, vive la vie. Vous glissez sans le savoir, drôle de drame. Au filet du désespoir pour quelques grammes. On ne peut pas vous donner, on ne peut pas vous soigner. On ne peut pas vous pardonner, faudra vous habituer seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse, j'y pense. Passer sans se retourner, c'est trop facile. Dire qu'on n'a pas à donner, c'est trop facile. Penser qu'on est différent parce qu'on est propre. Quand le malheur mécontent nous apostrophe, c'est ignorer qu'un matin, demain peut-être, on peut la tenir en main, la triste lettre. On ne peut plus vous garder, on ne peut plus vous loger, on ne peut plus vous aimer, il faudra vous débrouiller seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse.
Mais alors, est-ce que cette réduction des naissances qui passerait forcément maintenant par une décision politique ou en tout cas une... ou sociale, ou une prise de conscience de là où on est maintenant, donc deviendrait culturelle et non plus juste naturelle, comme tu le décris pour les sociétés primitives. Est-ce qu'elle fait partie des pratiques, et puis quelles seraient les autres pratiques, s'il nous reste quelques minutes pour essayer d'avoir encore quelques perspectives?
Alors, moi je suis plutôt partisan d'une prise de conscience individuelle plutôt que de grandes solutions politiques. Ça me fait toujours peur, ces choses-là.
Ça fait peur à tout le monde, hein, je crois.
J'espère. Et donc, du coup, je pense, par exemple, simplement en réduisant la part de céréales dans notre alimentation en tant que société, on pourrait déjà avoir des répercussions significatives sur la démographie, en les remplaçant progressivement par davantage de fruits et légumes. Donc, d'autant que les fruits invitent à avoir de plus en plus d'arbres à fruits, qui, eux, maintiennent les sols, évitent l'érosion des sols, recréent de l'habitat pour les espèces, etc. Donc là, ça me semble être des solutions très intéressantes. Et quelle était ton autre question?
Eh bien, puisque en début d'émission, donc on avait dit que tu pratiquais l'anthropologie globale. Et donc, en fin d'émission, de revenir sur des applications pratiques de cette discipline et d'essayer d'entrevoir des possibilités de survie et de vie pour nous autres humains du début du XXIe siècle.
Oui. Alors... quelque chose qui me semble important, c'est de comprendre que, en fait, soit on prend conscience de ces choses-là et on arrive à se changer nous-mêmes avant qu'on soit contraint par la force des choses, soit on vit le même effondrement que les civilisations passées. Et dans ce cas-là, on y sera contraint sans qu'on nous pose la question. Donc ça, c'est important de comprendre qu'on n'a pas tellement le choix, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on reproduit les mêmes choses que les civilisations passées, antérieures, à la seule différence qu'on le fait à échelle planétaire. On vit dans plus qu'une seule grande civilisation occidentalisée, interconnectée et planétaire. Et qui plus est, on le fait avec des moyens techniques jamais égalés. Donc voilà, on suit la même trajectoire, mais avec une puissance et une étendue géographique complètement inédite. Donc c'est vrai qu'il y a cette nécessité à prendre conscience de ces choses-là et à changer, je pense, par nous-mêmes si on veut éviter le pire. Et à titre individuel, en termes de pratique, c'est sûr que l'anthropologie globale, moi, m'a énormément inspiré et invité à la cohérence, puisque quand on comprend ces choses-là, on a envie que notre vie puisse épouser ces compréhensions et accompagner tout ça. Donc, bien, par exemple, moi, j'essaye de me défaire au maximum des techniques un petit peu trop... voilà, tout ce qui est téléphone portable, ordinateur portable, j'ai refusé de passer mon permis de conduire, je n'ai pas de voiture, je suis végétalien, je mange cru, j'essaye de m'alléger sur le plan matériel, d'avoir très peu de possessions, j'ai fait un grand tri et, parmi toutes les affaires que je possède, maintenant ça tient dans 3 cartons. Je refuse de lire la presse et de m'intéresser aux informations parce que je pense que c'est là des parasites qui nous empêchent de penser et qui nous maintiennent dans des visions court-termistes. La société du spectacle. Hein. Et voilà, j'essaie de, de renouer aussi avec le nomadisme. Je passe beaucoup de temps à voyager. J'ai vécu dans de très nombreux pays, essentiellement en Asie. J'ai habité aux États-Unis, j'ai habité en Turquie, j'ai habité en Europe, beaucoup, dans plusieurs pays européens. J'essaye de décroître ma part de travail et ma part de consommation. Donc j'ai refusé le salariat pour me consacrer notamment à ces recherches et puis passer plus de temps sur la route, à rencontrer mes semblables, à essayer de les comprendre, à essayer de découvrir l'humanité et puis également la nature. Donc je passe pas mal de temps à marcher en montagne, etc. Et puis vivre aussi des expériences d'autonomie, renouer avec l'autonomie, ça me semble essentiel. Se réapproprier des moyens du quotidien, de ne pas être complètement dépendant du système technicien qui produit des objets dont on va être dépendant, mais se réapproprier ces choses-là, réapprendre à dormir dehors, à connaître les plantes sauvages, à faire avec peu, à avoir une vie intense et riche en expérience, plus que riche en matériel, en matière et en argent. Voilà, ce sont des métamorphoses auxquelles invite cette discipline. Et pour moi, c'est aussi tout le sens que prend cette pratique.
Alors, ce qui est chouette avec les nomades, c'est qu'on peut s'attendre, à une fois qu'ils sont partis, on peut s'attendre à ce qu'ils repassent. Et donc là, on a entrevu une toute petite partie de ce dont tu pourrais parler. Tu donnes aussi parfois des conférences. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu, une date qui est déjà prévue, auquel on peut inviter nos auditeurs auditrices?
Alors, pour l'instant, il n'y a pas de date de prévue, pour la simple raison, c'est que je me suis vraiment concentré sur la publication de mon livre et je viens de l'envoyer chez l'imprimeur il y a moins d'une semaine. Donc, j'étais vraiment absorbé par ça et je n'ai pas eu le temps de planifier des conférences, des choses comme ça. Mais en effet, ça m'arrive de donner des conférences et de répondre aux invitations parce que c'est essentiellement ça. Ce sont des groupes de personnes qui ont envie de réfléchir à ces questions-là et qui me proposent de participer à la réflexion.
Alors, est-ce qu'on peut t'inviter pour une prochaine interview, pour aller plus loin, lorsque ton livre aura paru, par exemple ?
Oui, avec plaisir. Donc, normalement, il est imprimé dans 2 semaines. Mais à l'occasion, quand je repasse par chez vous, avec plaisir.
Merci, merci de cet éclairage qui est assez original effectivement et qu'on n'entend pas souvent et qui fait du bien un peu dans effectivement cette chose qui, pour revenir au début en fait, qui moi en tout cas me satisfait pas non plus d'explication de juste c'est le capitalisme ou c'est comme ça et voilà. Du coup merci.
À bientôt, merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Continuez d'écouter Radio Diwa, entre autres.
Ok, de beurre.
L'interview du jour.